Il enseignait comme un homme qui a autorité. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que c'est enseigner comme un homme qui a autorité? Alors faisons un petit détour, si vous voulez, par l'histoire de l'Église. Je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être de ce qu'on appelait les lapsis et les stantes. Alors c'est pas des noms de codes de tribus urbaines. Non, les lapsis et les stantes, c'était ceux qu'on désignait de cette façon-là lors des persécutions dans l'Empire romain. Les stantes, c'est ceux qui avaient tenu bon, et les lapsis, c'est ceux qui avaient chuté, qui étaient tombés. Mais sur quels critères, précisément, on déterminait qu'ils avaient tenu bon ou qu'ils étaient tombés? Sur le fait qu'ils avaient livré ou non les Saintes Écritures. L'Empire romain voulait mettre la main sur les Écritures. Et très douloureusement, dans notre temps, en Corée du Nord par exemple, c'est la même chasse effrénée à l'Écriture sainte. Des prisonniers trouvés avec une Bible ou des brochures religieuses ont été exécutés. D'autres sont enfermés pour les mêmes motifs dans des cages électrifiées, etc. D'autres encore qui tâchent de faire parvenir depuis la Chine des pages bibliques, eh bien subissent le même sort. Voilà, les régimes totalitaires ne s'y trompent pas. Ils savent que cette parole a une autorité. C'est-à-dire qu'elle va déterminer ce que je vais être. Elle va me transformer et faire de moi un homme nouveau, selon l'Évangile, un homme nouveau dont ces régimes ne veulent en aucun cas. Et puis, je le disais de manière plus positive, lorsque j'étais en mission dans ces petits villages des Andes, cette femme évangélique, au milieu d'un village particulièrement abandonné, beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de misère morale et physique, elle disait tous les jours: « J'apprends une parole de la Bible par cœur, et c'est là, c'est ma lumière pour ma vie, c'est le sens de ma vie, je me tiens droite. » Une parole qui a autorité. Notre grand drame dans notre société contemporaine, c'est cette dévaluation de la parole. Par comparaison, au Moyen-Âge, je vous le rappelle, on pouvait simplement être prisonnier sur parole. Il suffisait d'en faire le serment. Je ne sais pas si la centrale de Liancourt aujourd'hui pourrait fonctionner de cette façon-là. Peut-être qu'on peut en douter. Et de manière beaucoup plus large, on voit aussi ce que vaut parfois pour vous, chers jeunes mariés qui êtes là et qui partagez notre assemblée et notre week-end, parfois cette dévaluation du oui du mariage. Un oui qui n'engage plus vraiment. Et pour nous religieux, le oui de la profession. J'ai fait mes vœux, oui, j'ai dit oui, mais j'ai changé. Est-ce que la parole ne doit pas être l'invariant de notre vie, justement? Alors bien sûr, cela exige qu'on prononce la parole avec maturité et discernement, mais est-ce que ce n'est pas elle qui doit régler mon existence une fois qu'elle a été prononcée? Les pères du désert, vous le souvenez, n'aimaient pas non plus cette prolifération de paroles. Là-bas, était là dans sa petite cabane, au loin dans le désert, le disciple venait jusqu'à lui et disait « Abba, donne-moi une parole. » C'est déjà pas mal, il n'en demandait qu'une. Mais là-bas, elle est plus loin. Là-bas donc demande à son disciple « La dernière que je t'ai donnée, l'as-tu appliquée ?»« Non, c'est pas encore parfait. Alors retourne chez toi. Quand tu l'auras appliquée, tu reviendras me voir. » C'est beau, Est-ce qu'on se dit que mieux vaut moins de paroles qui aient un effet que une surabondance qui reste un peu dans le vent? Et ce n'est pas du perfectionnisme, c'est avoir le sens de ce qu'est la parole qui nous vient de Dieu et de sa mission profonde, de sa vocation qui est de se faire chair. Vous voyez, la petite Thérèse, on insiste beaucoup sur finalement son immense confiance en Dieu, le rôle de la grâce en elle, mais elle prend très au sérieux la parole et à un absolu propos de perfection, elle se met en campagne pour acquérir systématiquement toutes les vertus. Et c'est très intéressant de lire, par exemple, son procès de béatification, où on voit la manière dont les vertus, petit à petit, elle les a acquises. Non pas, encore une fois, par perfectionnisme, mais parce qu'elle a compris quel est le sens de la parole, selon ce que nous dit Isaïe, « La parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli sa mission, sans avoir fécondé la terre. » Et la petite Thérèse ne veut en aucun cas faire mentir cette parole. Alors nous savons bien qu'on a beaucoup, beaucoup de difficultés à laisser cette parole entrer en nous, à la laisser nous déterminer. Et l'évangile est beau parce qu'on voit bien justement que c'est... On est un petit peu comme ces démons qui, face au Christ, lui disent « Que nous veux-tu ?» Alors vous savez que l'expression grecque, elle est « Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Quoi de toi à moi ?» Autrement dit, « Qu'est-ce que tu viens faire dans notre monde ? C'est pas ton domaine, laisse-nous tranquille. Toi, tu es au ciel, nous, à nos enfers, laisse-nous faire notre travail et toi le tien. » C'est très intéressant parce que souvent on laisse rentrer la parole jusqu'à un certain point dans notre vie et puis à un autre point on dit non, ça me regarde, touche pas ma vie privée. C'est le grand reproche qu'on a fait à Jean-Paul II, à Benoît XVI. De quoi il se mêle celui-là? C'est ma vie, ça regarde personne. Et puis l'autre reproche, aujourd'hui inverse qu'on fait au pape François, c'est touche pas à mon économie, à mes théories libérales et l'immense fronde conservatrice qu'on a aux États-Unis, et bien de cet ordre-là, la parole du pape, on ne dit pas qu'elle est fausse, on dit simplement qu'il n'est pas habilité à intervenir sur certains domaines. C'est tout. Et comme ça, on s'en débarrasse. Que l'Église puisse parler du dogme ou des anges, c'est très bien, mais pas plus. Vous voyez, le logos, le verbe, cette parole que l'Église transmet, elle a néanmoins vocation à tout remettre en ordre. C'est ça l'autorité de la parole. Elle ira au-delà de l'hostilité des démons. Elle ira au-delà de l'hostilité de la société. Elle parlera à temps et à contre-temps. Au-delà de l'hostilité peut-être des jeunes qu'on a à éduquer, notre père l'ami nous le disait, quand il voyait un jeune qui ne faisait pas ce qu'il fallait, il lui disait « Tu peux peut-être me mettre à terre, mais tu ne m'empêcheras pas de te dire la vérité. » Et comme ça, il les arrachait à leurs mauvais défauts. Voilà. Pourquoi, justement, cette parole a autorité? Pourquoi la parole du Christ a autorité? Eh bien, la première raison, c'est parce que le Christ nous a créés. Cette parole qui aujourd'hui me dit « Fais le bien et une vie droite », c'est exactement la même qui m'a créé. Autrement dit, pour le dire de manière un peu familière, la machine, le Créateur la connaît. Et donc c'est lui qui peut donner le mode d'emploi. C'est d'abord ça, l'autorité du Christ, c'est l'autorité du Créateur. Et il n'y en a pas d'autre. Vous voyez, c'est ce que nous dit aussi la première lecture, hein, quand il nous parle des faux prophètes. Il n'est que d'aller dans une librairie de bonne facture, avec plusieurs dizaines de mètres carrés, voire centaines de mètres carrés de rayons. L'ésotérisme, le développement personnel, il y a des bonnes choses, je ne dis pas. Mais il y a aussi des choses qui sont vraiment du charlatanisme, sur des rayons et des rayons. Et puis sur peut-être un ou deux mètres, la foi chrétienne. Et les faux prophètes abondent. Et les faux prophètes ne sont pas nos créateurs. Les faux prophètes ne connaissent pas le mode d'emploi qui nous correspond. Et donc ils nous abusent. Et donc ils nous font du mal. Ils n'ont pas l'autorité. Et il est important de pouvoir le redire. Le magistère de l'Église, qu'on comprend mal parfois quand, justement, au début d'un livre, on voit « imprimi potest »,« imprimatur », etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire on a reconnu que ces paroles sont en concordance avec les paroles du Logos qui nous a créés. Ça ne veut pas dire autre chose. Ce n'est pas une espèce de censure comme on en avait dans les temps anciens, dans nos pays. Deuxième raison, peut-être, pourquoi le Christ a autorité. Il n'est aucune parole que le Christ n'ait prononcée qu'il n'ait lui-même appliquée. Il illustre cette parfaite continuité entre la parole et la vie qui, à nous, nous fait si souvent défaut. Et qu'est-ce que ça produit, ça ? Ça produit l'adhésion. Alors, pardon, on va citer un vieux proverbe latin qui disait « Verba movent, exempla traunt ». Les paroles peuvent émouvoir, mais c'est seuls les exemples qui nous mettent en marche. Voilà quel est le Christ. Et un vieux prêtre, un abbé cistercien nous disait une fois « Vous savez, le Christ n'a jamais dit « Obéissez-moi ». Il n'a fait que dire « Suivez-moi ». Ce que je fais, faites-le, vous aussi. Voilà pourquoi nous avons envie d'adhérer au Christ, parce que nous sentons la cohérence. Et vous le savez bien, vous qui avez des enfants ou qui êtes appelés à en avoir, à quel point c'est important dans l'éducation, notamment à l'adolescence. L'adolescence va débusquer nos incohérences. Mais s'il sent la cohérence de ce que nous sommes et de ce que nous disons, alors il nous suit. Même si nous sommes maladroits, pécheurs, c'est pas la question. Sa question est, et la certitude qu'il veut avoir, est-ce que tu es capable de payer de ta vie ce que tu me dis ? Si ce n'est pas ça, il n'y aura pas d'adhésion. Et si c'est ça, eh bien, le charme opère, si je puis dire. Voilà quelle est notre vocation de chrétien, justement. C'est ça, notre royauté. Être roi, c'est emmener derrière soi tout un peuple. Et comment sommes-nous rois ? Par la cohérence de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Voilà la mission qui nous est donnée. Si parfois c'est difficile, posons le regard sur le Christ, contemplant cette parole faite chair parfaitement, contemplons cette sagesse incarnée, elle nous délivrera du mensonge et nos cœurs s'apaiseront.